Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Salut la gang! Encore une fois dans la jungle des affaires, aujourd'hui 563e épisode. Wow! Je suis content parce que, d'abord, premièrement, parce que ça perdure, c'est donc bien le fun, mais je suis content parce qu'on rencontre des gens d'affaires, on entend toutes sortes d'histoires, c'est capoté ce qu'on apprend. Plus ça va, plus nos gestionnaires d'entreprise, nos propriétaires nous racontent des histoires, sont ouverts. C'est du bonbon. C'est du bonbon. Moi, je vous invite, tout le monde, à écouter les 563 entrevue après aujourd'hui avec Eric et Maïlys, parce que c'est du bonbon. C'est comme un baccalauréat en entrepreneuriat. Tu apprends tellement plein d'affaires, c'est le fun. Je suis supposé d'être rendu brillant, moi, là. Jean Gauthier, encore avec vous pour la prochaine heure. Ben oui, dans la jungle des affaires. Puis je suis pas tout seul aujourd'hui. Ben non, je serai accompagné de mon amie Marie-Ève. Marie-Ève qui vient co-animer.
Hey, merci beaucoup
de l'invitation. Tu ne savais même pas en plus qu'on est en Zoom.
Non, surprise.
Surprise. Parce que on en fait beaucoup en studio, mais on en fait aussi en virtuel avec Riverside, qui est un outil exceptionnel. Là. Ceux qui ont goûté à Zoom puis tout ça, là, vous n'avez rien vu là, avec Riverside. Là, c'est du bonbon. Je devrais être payé bon, quand je dis ça par eux autres, hein? Eh, Seigneur, en tout cas, ça, c'est mon côté altruiste. Maïlys, je trouve ça tellement beau de mettre le S en arrière de. Parce que je connais des petites Maïlys. J'en connais une, entre autres, ma filleule. Mais Maïlys, Chupin, est-ce que je le dis bien?
Oui, c'est bien ça. Wow. Exactement.
Et Éric Santerre qui sont avec nous aujourd'hui de TOC Communication. C'est enfin. Sûr qu'on va parler de communication. Pensez-vous?
Sûr.
Je pense que oui. On va parler. Puis la communication aujourd'hui, c'est pas juste de dire bonjour, comment ça va. Hein? C'est rendu la techno en arrière de ça, les réseaux sociaux, l'image de marque.
Beaucoup de choses.
Puis aussi la marque employeur. Parce qu'aujourd'hui, l'employé, il passe les employeurs en entrevue. Tu vois, c'est Eric?
La pénurie de main-d'œuvre n'est pas facile.
Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup de nous avoir invités.
Ben écoute, même si on est à distance, c'est pareil comme si tu étais en studio, sauf que tu nous as fait la promesse tantôt, Eric, quand tu vas revenir dans le coin de Québec, tu vas venir nous voir.
Je vais passer vous voir.
Tu vas venir nous visiter. Bon, on en refera une petite capsule, là, un petit 15 minutes, sur le bras du boss.
Avec plaisir. Je promesse.
Quel est le rôle de Maïlys dans l'entreprise?
Ben, dans le fond, je vais répondre pour moi, mais je suis actuellement chargée de projet à TOC Communication. Mon rôle, il est un peu double dans le sens là où je suis autant du côté terrain, donc avec les clients, dans l'accompagnement en général sur les mandats, avec toutes les approches auprès des journalistes, la rédaction de communiqués de presse, le suivi en général et l'accompagnement global des clients dans l'expérience du mandat. Puis je suis aussi j'ai aussi un rôle en fait auprès de mes collègues, donc coordonnateurs et coordonnatrices en relations de presse, donc qui va plus être au niveau de la révision, puis aussi je supervise un peu mes chargés de compte qui sont au-dessus de moi et qui me guident un peu dans toutes ces tâches.
Tu as du monde là-dedans? Chargé de compte, le patron, lui, il fait plus rien, Eric, là. Il est en vacances, puis il fait l'école. Hein,
Je serais pas prêt à dire ça.
Il n'a pas l'air en vacances.
Mais en fait, l'histoire qui est intéressante, c'est que Maïlys, elle a commencé vraiment au tout début, quand elle est arrivée chez nous, donc comme coordonnatrice. Là, elle est rendue chargée de projet. Éventuellement, on le souhaite chargée de compte, effectivement, mais c'est vraiment le fun de voir quelqu'un. Surtout, tu sais, on en a parlé un peu à la blague tantôt, là, pénurie de main-d'œuvre et compagnie, mais c'est le fun de voir aussi des gens qui restent longtemps puis qui ont vraiment cette volonté-là de grandir avec l'entreprise, avec l'agence, etc.
D'évoluer. Parce
que pour moi, comme employeur, c'est vraiment c'est du bonbon, là, vraiment.
Mm-hmm. On parle souvent de la main-d'œuvre, hein? C'est un mot qui revient souvent là, présentement. Ouais. La rétention, on ne veut pas les perdre, on veut les garder.
Mm-hmm. Oui.
pas à n'importe quel prix.
Mais c'est pas facile.
Mais c'est pour ça, quand on voit des gens qui veulent s'impliquer puis qui veulent vraiment, ils ont l'entreprise à cœur, bien, c'est ça, c'est le fun de se les mettre avec nous puis d'évoluer ensemble puis de les faire évoluer aussi.
Ça a une grande valeur, vraiment là, énorme, là, je pense, auprès des employeurs en tout genre. Tu sais, une pénurie de main-d'œuvre comme on vit actuellement, tout ce qui est rétention d'employés, etc., tu sais, ça s'est jamais vu avant au Québec. Tu sais, c'est vraiment des défis auxquels on n'était comme pas nécessairement préparé. Fait que, tu sais, on apprend aussi en même temps là, qu'on les vit là, au fur et à mesure.
Il n'y a pas de formation pour ça. Il n'y avait pas un cours à l'université là, dans démarrage d'entreprise, mais on plus de staff.
Oui, c'est ça.
T'sais, en fait, moi, je trouve, là, t'sais, trouver des gens, c'est une chose. Trouver des gens, c'est pas nécessairement toujours ce que je trouve le plus difficile. Je pense que c'est vraiment au niveau de la rétention que c'est pas évident.
Plus que de trouver.
Moi, je trouve que c'est vraiment plus que de trouver les gens, c'est vraiment de les garder, mais aussi de s'adapter. Parce que ça va dans les deux sens, je pense, une relation employeur-employé, ça va vraiment dans les deux sens, mais tu sais, chacun des deux côtés, chacun a sa limite qui peut et ne peut pas dépasser. T'sais. Fait qu'en même temps, il faut être capable de dire OK, ben moi, c'est le maximum que je peux donner, c'est le maximum comme employeur, puis l'employé, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment.
Ça va des deux côtés.
Ouais, la communication, la transparence, d'ouvrir le dialogue avec les employés, je pense que c'est important.
Mais moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que moi aussi, j'ai un commerce dans un autre domaine, mais moi, dans mon travail, c'est facile pour mes employés d'aller s'ouvrir quelque chose immédiat ou de partir autonome. Vous, dans votre domaine des communications, est-ce que les gens peuvent facilement se partir une boîte de com, peuvent facilement être autonomes ou, tu sais, il y a quand même un sentiment. Tu rentres dans une boîte, tu es dans une boîte, puis tu as un sentiment d'appartenance.
C'est une bonne question.
Bien, en fait, je pense que, tu sais, c'est pas tout le monde, c'est pas parce que tu dis je veux devenir entrepreneur, je pense que tu peux l'être. Je pense que ça prend, puis je dis ça sans aucune prétention, mais je pense que ça te prend quand même des reins solides. Je pense que ça te prend une certaine carapace, je pense, parce que ça vient avec 1 million de défis tout le temps. Mm-hmm. Je pense que la facilité au niveau des agences, quand tu te pars une agence ou des choses comme ça, c'est que c'est une entreprise de service. Fait que c'est sûr que les investissements de départ, sont souvent moins grands. Donc, tu sais, par exemple, quelqu'un qui est dans le secteur produit, qui doit acheter une énorme machine pour faire X affaires ou des trucs comme ça, bien, c'est sûr, ou bien juste une boutique de X trucs.
Pas les mêmes frais.
Bien, faut que tu payes ton inventaire, etc. Tu sais, il y a comme plein de choses comme ça, versus quand tu te lances en affaires dans une entreprise de service, bien, il y a moins un peu cette base-là. C'est sûr qu'il faut que, bon, tu fasses un site web, etc., mais maintenant, tu sais, il y a moyen de te le faire toi-même si tu n'as pas les moyens tout de suite, tu sais. Fait qu'il y a cette facilité-là. Cependant, dans notre milieu, des agences, etc., la compétition, elle est énorme. Il y a des agences à tous les coins de rue, tu sais, littéralement, tu sais, pendant un temps, là, c'est un peu moins le cas, mais tu sais, juste dans notre building, pendant un temps, il y avait comme 3-4 agences. Okay. C'est comme... puis on fait toutes la même affaire. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, j'ai même déjà vu un client qui avait un meeting avec nous autres. Tu sais, un client potentiel avait un meeting avec nous autres, traverser le couloir, puis aller dans un autre meeting avec l'autre agence à côté après, puis petit faire l'évaluation des deux. Tu sais, c'est comme... Il y a vraiment, vraiment beaucoup de compétition. Fait que... mais en même temps, c'est part of the game. Puis je pense que la compétition, il y a moyen d'avoir une compétition saine. Malheureusement, est-ce que tout le monde comprend ça? Je ne pense pas. Mais peut-être que je suis naïf de penser que la majorité vont offrir une compétition assez saine, là, inter-agence.
Bonne question, parce que nous, on le vit dans le podcast, dans la mesure où ce que n'importe qui est capable d'animer un podcast. À la limite, quand je dis n'importe qui, là, je veux pas enlever la qualité de certains narrateurs ou animateurs ou animatrices, mais ça reste que c'est quelque chose de quand même assez facile. Nous, ici, on a 6 clients qui viennent faire le podcast dans notre studio.
OK.
Mais, tôt ou tard, ils peuvent le faire ailleurs. T'sais, tu comprends? Ça fait que c'est une excellente question, Marie-Ève, qu'elle apporte, parce que tu bâtis sur des mailistes de ce monde, puis du jour au lendemain, ils décident qu'ils veulent leur propre agence, bien, C'est un marché qui est quand même assez... Mais toi, comme tu dis, Eric, tu n'y peux rien. Là. Tout ce que tu fais, prends soin de ton monde, puis garde.
Exactement.
Puis tu peux pas non plus pas lui donner tes trucs ou tes connaissances. Parce
non.
Que...
non, c'est ça. Définitivement.
Tu veux qu'ils soient les meilleurs. Tu sais, toi, dans ton domaine, c'est pareil. Toi, tu veux les meilleurs coiffeurs, les meilleurs, tu sais, les meilleures personnes pour s'occuper de la beauté de tes invités. Fait que tôt ou tard, la personne, elle devient tellement bonne qu'elle décide qu'elle part ses affaires, elle, là.
Sauf qu'en même temps, j'ai rarement vu quelqu'un qui se lance en affaires généralement, de façon générale, n'importe quel domaine, ou bien quelqu'un qui se part une agence, qui, admettons, qui partirait d'ici, qui se partirait une agence.
Surtout une agence.
J'ai jamais vu quelqu'un en 6 mois, qui va aller m'accoter en 6 mois, tu sais.
Mm-hmm.
Non.
Je dis pas que ça arrivera jamais, mais comme moi, ça fait 7 ans, puis tu sais, comme...
Ça vient de où, ça, Eric, là, la base des affaires? T'as pogné ça où? Un matin, en te levant, t'as dit « je vais devenir entrepreneur »?
Mon Dieu. Moi, mon père avait sa compagnie. Il a fait des petites choses par-ci, par-là. Qu'il y avait ça, mais tu sais, j'ai quand même eu un début de carrière un peu houleux. On va dire, là, c'était assez particulier comme début de carrière, très honnêtement. La base, moi, ce qui a vraiment fait que j'ai voulu me lancer en affaires, c'est que moi, j'étais pas, mettons, il y a quelques années, j'étais pas quelqu'un qui dealait très bien avec l'autorité.
OK. Ça arrive souvent, ça.
Ouais.
Fait que moi, j'avais vraiment besoin de prendre mes propres décisions puis de faire mes propres choix dans mon quotidien professionnel. Donc, moi, c'est vraiment la base de mon...
Moi, je veux pas de boss, là.
Mais j'ai une question pour toi, Eric. Maintenant, comment tu agis en tant que patron d'une personne qui est comme toi, tu étais dans le temps?
T'as-tu des Eric, là? T'as-tu des Eric?
T'en as-tu des petits Eric?
Oui. Je te dirais que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ces années-là, définitivement. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que, en fait, ce qui est paradoxal un peu, c'est que, tu sais, justement, mes expériences professionnelles avant, sauf ceux où j'étais pigiste ou des choses comme ça, mais tu sais, dans la grande majorité, moi, j'ai été congédié de tous mes emplois ever. Mais comme, c'est littéralement. Sauf deux. Une fois, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, c'est moi qui est parti, puis peut-être une autre fois. Mais de façon générale, j'ai été congédié de partout. Tout le temps pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, avec du recul, je regarde ça, puis je suis comme... Mon Dieu, qu'ils ont bien fait.
Ben oui, parce que tu serais pas en affaire.
Ouais.
Oui, mais au-delà de ça, c'est comme... J'étais pas un bon employé, tu sais.
Ouais.
Mais là, t'es un bon employeur.
Je pense que oui. Est-ce que je suis parfait? Non.
Ah ben, je vois Maëlys qui nous dit oui, là.
Ouais.
Mais c'est ça, on va peut-être plus se répondre.
Ouais,
mais
c'est ça, là. On va la laisser nous l'expliquer, voir.
J'allais rebondir sur ce que vous disiez parce que je pense que Eric est quand même un employeur qui est très à l'écoute de ses équipes. Puis c'est super important parce qu'il n'y a pas cette barrière-là, là où par exemple, on peut arriver dans une entreprise à avoir cette hiérarchie qui fait qu'on a des fois des moments de gêne pour exprimer certaines choses. Mais avec Eric, il n'y a vraiment pas ça. On se sent automatiquement à l'aise de lui parler, tu sais, de le prendre sur le côté pour lui confier certaines choses. Donc, je pense que ça, c'est un bon point. Peu importe où est-ce qu'on veut s'en aller dans la vie après, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on peut toujours s'exprimer puis trouver un terrain d'entente. Donc, c'est
communiquer.
Ouais.
Exact.
Ça y est, il faut communiquer. Voilà. C'est top communication.
Oui, mais qu'est-ce qui a fait, Maëlys, toi, justement, que tu as décidé de choisir l'équipe à Eric? T'sais, s'il y en avait 3 autres dans la bâtisse et tout, là, qu'est-ce qui fait que tu es allé travailler avec l'équipe à Eric?
En fait, moi, avant de commencer à ta communication, j'étais en tant que chargée de communication dans une autre petite entreprise. Je cherchais vraiment déjà ce côté-là d'être dans une équipe jeune et dynamique. Puis je cherchais vraiment aussi cette ouverture d'esprit-là, justement d'être dans une équipe qui est ensemble et qui a envie d'évoluer. Et c'est ce que j'ai trouvé à TOC parce que je pense que depuis que j'ai commencé, vraiment, j'ai pu justement avoir cet accompagnement. Puis aussi me sentir évoluer en tant que personne. Puis je pense que dans le travail en général, c'est ça qui est important aussi, c'est de sentir que son potentiel est en train de sortir parce qu'on est bien encadré. Et je pense que c'est vraiment ce que j'ai trouvé à TOC et qui fait que je me sens bien.
Parfait.
Quand on est utile, hein, quand on se sent utile dans l'organisation, peu importe le poste qu'on occupe, tu sais, quand on sent que à la fin de la journée, on s'est accompli, puis on sent qu'on a fait une différence hein, dans l'organisation. Maïlys, est-ce que tu étais... d'abord, ben moi, je veux savoir, là, ça vient pas du Lac-Saint-Jean, là, Maïlys Chupin?
Non, pas du tout.
Tu viens de où? Dis-nous, tu viens de où? Tu viens de quelle région?
Ben, en fait, moi, je viens pas du tout du Canada de base.
Ah ouais?
Non, pas du tout. Je suis née et j'ai grandi au Sénégal, donc en Afrique de l'Ouest, à Dakar. Okay. Puis, en fait, quand j'ai eu 17 ans, je suis partie directement faire mes études au Canada. Donc, j'ai étudié à l'Université de Montréal en communication et politique. Ensuite, j'ai fait un petit certificat d'un an en gestion de l'information numérique. Puis, j'ai commencé à travailler. Donc, ça va faire 6 ans que je suis au Canada, c'est ça.
Pourquoi le Canada?
En fait, le Canada, parce que j'étais jamais venue avant au Canada, honnêtement. J'avais eu aucune expérience, mais de ce que je voyais de l'extérieur, l'ouverture d'esprit. Vraiment pas que la gentillesse, mais juste l'ouverture d'esprit aussi. De sentir pouvoir être soi-même à 100% dans un endroit, c'est super important. Puis j'avais envie de changer aussi tout ce que je connaissais de mon quotidien, que ce soit au Sénégal ou en France. Donc j'ai décidé vraiment d'aller à l'aventure et de venir ici.
Puis la langue aussi, quand même, tu as gardé ton français, hein, parce qu'on se comprend. C'est sûr que nous autres, des fois, on parle bizarre un peu, là. Mais...
À son charme.
Ouais. Non, mais c'est comme partout. Tout le monde, peu importe le pays, peu importe la région, tout le monde, il y a tout le temps des accents de différents artistes.
Oui.
Ouais.
Mais le français, c'est une langue qui est difficile.
Oui, hein? Ouais, c'est vrai.
Tu as été chanceuse d'avoir appris cette langue-là au départ, parce que quand les gens arrivent ici et ils ne parlent pas français, là,
Ouais, c'est pas facile, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'était un facteur pour moi aussi, le français, parce que je me suis dit, je vais pas être dépaysée du tout, puis en même temps, je vais être dans un endroit totalement différent. Donc, c'était vraiment des bons points.
Puis est-ce que des fois, tu aurais envie de retourner au Sénégal?
C'est sûr que ça reste chez moi. Mon cœur est quand même là-bas. Mais pour l'instant, je me sens bien au Québec. Je pense que j'ai encore pas mal de choses à faire ici. Donc,
t'as-tu de la famille là-bas encore?
Oui, mes parents vivent toujours au Sénégal. En général, j'ai aussi beaucoup de familles proches, mes grands-parents. Mais en fait, moi, mon père est français, ma mère est sénégalaise. Du coup, j'ai aussi beaucoup de familles en France. Donc, je suis un peu une citoyenne du monde, c'est ça.
On les a rencontrés aussi.
Ah oui?
Ils sont venus
visiter à l'agence.
Ils sont venus voir si Éric Santerre, c'est un bon monsieur.
Exactement.
Ah oui,
c'est sûr.
Je partage un point commun avec la mère de Maïlys aussi. Donc, on a des études communes, la mère de Maïlys et moi. Donc,
ah oui, pas vrai?
Aussi,
Le monde est petit. C'est pas vrai que le monde est grand. Hein? C'est vrai que c'est petit.
Ouais.
Éric, qu'est-ce qui se passe présentement dans ta communication? On est en mode... tu me parlais tantôt de 7 ans. Ça veut dire qu'on est en mode... on dit entrée de jeu... Mi-gamme, qu'est-ce qui s'en vient? Progression, belle progression?
Oui. En fait, il se passe vraiment beaucoup de choses chez nous en ce moment. Ça roule vraiment vitesse grand V, ce qui est une très bonne chose. Ça amène son lot de défis, mais on est en fin d'année aussi. Je pense que Marie-Ève, tu es entrepreneur aussi la fin d'année. On dirait qu'il y a 1 million d'affaires. Je te donne un exemple. T'sais, moi, ça fait 7 ans que je suis en affaires, mais ça fait 7 ans que je traîne le même vieux site web qui a été super puis qui a fait son temps. Mais là, on travaille avec une agence de Québec qui s'appelle Instinct qui vont sortir dans quelques semaines notre nouveau site web. Fait qu'on a vraiment, vraiment hâte. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Je dirais aussi que les 2-3 dernières années ont été extrêmement... il y a croissance puis il y a croissance, tu sais... Puis je m'en plains pas, je suis vraiment, vraiment content. Mais c'est sûr que la croissance amène aussi son lot de grands défis vraiment importants. T'sais, nous autres, en mars 2020, quand la COVID a kick, on était 4, on est rendu 15. Ça vous donne une idée qu'en très peu de temps, ça a comme vraiment, vraiment monté super vite. Je dirais que ce qui s'en vient, c'est vraiment de continuer nos projets, de continuer de faire un bon travail, de travailler de qualité, de travailler avec des clients avec qui on a envie de travailler, qui ont envie de travailler avec nous aussi, je pense. On a quand même des valeurs puis des façons de faire qui sont parfois différentes un peu de ce qui se fait déjà sur le marché.
Comme quoi?
Je dirais que, on n'est vraiment pas... Puis, tu sais, c'est une de... on n'est vraiment pas des yes men, j'ai le goût de dire. Si je peux utiliser cette expression-là, c'est que dans le fond, nous autres, on se positionne vraiment comme une agence très dans la consultation, puis dans le service conseil, puis dans... Fait que, tu sais, pour nous, c'est vraiment important de comme... d'orienter le client vers les meilleures pratiques. Puis moi, je le dis souvent, en fait, je le dis quand je rencontre un client potentiel, je dis souvent, en fait, tu sais, si pour vrai, si tu cherches quelqu'un qui va toujours te dire oui, puis t'es beau, t'es bon, t'es fin, t'es capable, puis c'est exactement, t'as raison sur toute la ligne, travaille pas avec moi, tu vas m'haïr la face au bout de 2 semaines. Fait que, comme, tu sais, on est vraiment là-dedans. Aussi, je dirais que nous, on essaye vraiment d'avoir un équilibre parce que, ça, je le répète vraiment souvent à mon équipe puis à tout le monde qui veut bien l'entendre, j'ai le goût de dire. Tu sais, on travaille en communication puis on le sait qu'on sauve pas des vies. On fait médias sociaux, relations de presse, design. Tu sais, on le sait qu'on n'est pas médecin puis qu'on n'est pas infirmier puis que, tu sais, ces personnes-là qui littéralement sauvent des vies. Mais pour nous, on voulait trouver un plus grand sens que juste faire des communications à ce qu'on fait. Fait qu'on... 40 % et plus, même, on doit être rendu à pas loin de 45-50 % de notre clientèle, ce sont des organismes à but non lucratif qui vont lutter pour différentes causes, autant environnementales que sociales. On est très, très impliqués dans la communauté LGBTQ+. D'ailleurs, on est certifié LGBTQ+, Official Supplier de la Chambre de commerce gay et lesbienne du Canada, qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Donc, pour nous, de travailler avec ces organismes-là, ça donne vraiment un sens à ce qu'on fait. Donc, pour nous, c'est vraiment... C'est comme quand tu te couches le soir, tu as vraiment, comme je sais pas, le sentiment d'avoir fait que en les accompagnant, tu te dis, ben t'aides à leur mission, puis leur mission aide d'autres personnes. Donc, je pense que pour nous, c'est des éléments extrêmement importants de notre identité.
Mais moi, j'ai une question pour toi, Eric, je m'excuse. Puis,
ben oui.
Qu'est-ce qui fait que tu es certifié LGBT? Je ne sais pas quoi plus. C'est quoi ça? Non, parce fait, que moi, je ne connaissais pas dans mon domaine. Puis, tu sais, moi, je suis dans un domaine, la coiffure, que tout est tellement ouvert. Nous autres, c'est comme.
Oui, ben oui.
Fait là, ben, que tu arrives avec ça, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Fait peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que ça apporte. Oui, tout à fait.
Très bon. C'est une super bonne question. En fait, ce n'est pas nécessairement une certification qui est super connue, comme, admettons, la certification B Corp, là, que les gens commencent vraiment à connaître partout. Puis, je trouve que c'est une super belle certification aussi. D'ailleurs, ça fait partie de nos projets qu'on voudrait faire en 2024. Cette certification-là, déjà, il y a certains critères à respecter. Tu sais, moi, je fais partie des communautés LGBTQ+. Donc, tu dois démontrer que, effectivement, ton actionnariat de ton entreprise fait partie des communautés LGBTQ+, à plus de 51%. Donc, je suis tout seul d'actionnaire, donc c'est assez simple de mon côté. Ensuite, c'est aussi de démontrer qu'une partie importante de ton chiffre d'affaires, de ton travail, aide les communautés LGBTQ+. Donc, tu sais, nous autres, on travaille avec Fondation Émergence, Réseau, le Centre Interligne. Donc, on a vraiment plein d'organismes. Mon Dieu, le Conseil québécois LGBTQ+, on travaille avec Égide. Bref, on en a vraiment beaucoup. Donc, il y a ça. En gros, ça démontre que ton entreprise est une entreprise inclusive au niveau de la diversité sexuelle et de genre, puis qu'il n'y a pas de barrière à ce niveau-là là, de notre côté. Puis, c'est aussi, c'est ça, de vraiment démontrer une certaine inclusivité, de démontrer que comme environnement de travail, c'est un safe space pour les communautés LGBTQ+. Donc, c'est ça. T'sais, c'est vraiment... des fois, je compare ça un peu à... Souvenez-vous, là, mon Dieu, ça fait longtemps, je ne sais même pas si ça existe encore, mais les collants que les gens pouvaient mettre dans les fenêtres de leur maison, là, enfants secours, oui. Je ne sais pas trop quoi, je ne me souviens pas comment ça s'appelait. Là. Mais c'est un peu dans le même genre, tu sais, de montrer que ce milieu de travail-là, c'est un milieu où on peut s'épanouir dans la diversité sexuelle et de genre. Donc,
mais il y en a donc, de voilà. Tous les genres. Il y a des hétéros, il y a tout, là.
Tout à fait. Il y a pas de, il y a comme, mais tu sais, c'est vraiment ouvert à tous. Puis voilà. Puis aussi l'utilisation du langage inclusif aussi. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie d'intégrer beaucoup chez nos clients. Donc, on suit des formations nous en interne, entre autres pour nos services en médias sociaux, justement sur l'utilisation de l'écriture inclusive. Puis on essaie vraiment de l'intégrer, de pousser un peu nos
comment
clients.
Comment ça se passe? Il y a une belle ouverture là-dessus, Eric?
Il y a une très belle ouverture, mais c'est pas facile. Non. D'un point de vue technique, là, ouais. C'est vraiment pas évident parce que ça déconstruit un peu ce qu'on a appris à l'école.
L'anglais n'a pas ce problème-là souvent.
En anglais, ils n'ont pas ce problème-là, effectivement. Mais en français, c'est pas évident. Tu sais, là, juste, admettons, d'utiliser le toast, c'est pas tout le monde qui, comme, tu sais, il y en a qui est comme, ah, mais ça me fait saigner des yeux. Ben, je comprends, sauf qu'en même temps, le français est une langue évolutive. Je veux dire, si on parlait encore le français de la Nouvelle-France, on s'entend qu'on parlerait pas de même.
Non, non.
Fait que, je veux dire, je crois que la langue est est de façon générale quelque chose qui peut évoluer. Je pense que c'est important. En même temps, on veut pas non plus brusquer nos clients, on veut pas les forcer, mais
c'est délicat. C'est ça. Hein?
Exactement. Puis tu sais, il y en a qui vont petit peu par petit peu. T'es pas obligé de tout changer d'un coup.
Non, c'est ça.
Tranquillement, pas vite.
À la méthode Kaizen.
Ouais.
Ben non, mais c'est vrai. Une étape à la fois.
C'est ça, exactement.
Tu as parlé tantôt, Éric, le B Corp, là, nous autres, on est sensibles à ça ici aussi, parce que c'est bien évident qu'on reçoit beaucoup d'entrepreneurs. C'est devenu comme un peu ben, en tout cas, c'est très populaire.
Oui.
Est-ce que ça t'a influencé, ça, dans ton virage ou dans ta décision
D'aller vers la certification LGBTQ+? Ouais. Est-ce que ça m'a influencé?
Parce qu'il y a une partie là-dedans qu'on s'entend qu'ils veulent inclure. En fait, eux autres, ils parlent beaucoup
d'environnement.
L'environnement ouais. aussi. Puis ils parlent, mais ça reste qu'ils veulent qu'on intègre des employés de tous les milieux, de toutes les provenances. Bon.
Ben, je dirais que, tu sais, moi, je veux pas. Déjà, tu sais, il faut faire attention dans le sens où. T'sais, moi, je ne suis pas allé chercher cette certification-là en me disant que ça va me ramener plus de clients. Je pense qu'il faut vraiment que tu ailles chercher cette certification-là pour les bonnes raisons. Puis voilà, fait que tu sais, B Corp, je n'ai pas encore commencé le processus.
Non, OK, tu n'es pas dedans. Okay.
Non, je ne suis pas encore dedans. Okay. Je suis vraiment. C'est un projet pour 2024. Début 2024, ça va commencer vite. Ça revient vraiment
vite. C'était quasiment d'être obligatoire.
Sauf que. Je pense que comme entrepreneur, on a une certaine responsabilité sociale, une certaine responsabilité au niveau de l'environnement et tout. Donc, puis tu sais, je veux dire, j'ai une jeune équipe. Tu sais, je veux dire,
C'est plus facile, on dirait, hein, Éric?
Beaucoup de gens dans la trentaine, dans la vingtaine.
Plus facile de passer des messages. Hein? Ouais. C'est une belle communauté pour vous autres.
Ils sont plus ouverts aussi à la base. Là.
Définitivement. Ils sont nés là-dedans, tu sais. Ben oui.
Voilà, donc tu sais, je pense que c'est aussi d'écouter ce que ton équipe dit, puis qu'est-ce qu'ils ont envie, puis pour quel genre d'entreprise ils ont le goût de travailler aussi, je pense que c'est important. Puis tu sais, peut-être MyList pourrait en témoigner, mais tu sais, je pense que c'est important d'écouter.
Ben oui, c'est important, surtout pour les clients, tu sais, de pouvoir avoir des mandats sur lesquels on est passionné de pouvoir travailler, parce qu'au final, c'est ça qui va donner du résultat, de pouvoir travailler sur quelque chose qu'on aime, parce que c'est l'énergie qu'on va mettre dedans qui va apporter les résultats.
Absolument.
C'est sûr, c'est essentiel.
Clientèle, Éric, ça ressemble à quoi ta clientèle?
Ben, j'ai le goût de laisser
autonome ou grande entreprise?
Ben, j'ai le goût de laisser MyList répondre à ça, voyons. Parce que... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma clientèle, tu sais, moi, je suis pas, de par mon poste, je suis pas hands-on dans les mandats nécessairement. Donc, c'est vraiment plus MyList qui va avoir comme. MyList est vraiment sur le terrain. Fait que j'ai le goût de la laisser répondre à cette question-là.
Yes.
Je dirais qu'on a vraiment différents types de clients. On peut avoir des clients de la petite PME à la grande entreprise. Puis on a vraiment des clients qui sont dans tout type de secteur. Ça peut être vraiment des clients plus mode et beauté. On a des clients aussi qui sont, comme on disait, des OBNL qui peuvent être engagés dans différentes causes. Ça peut être des causes pour la préservation des animaux. Ça peut être aussi des causes en rapport avec l'environnement, avec la santé mentale. On a vraiment énormément de choses à ce niveau-là. Puis on a aussi des entreprises, en général, ça peut être des entreprises qui sont plus techno, ça peut être des entreprises aussi qui sont plus dans la distribution de boissons. On a vraiment une grosse diversité de clients, donc on n'a pas de quoi s'ennuyer parce que nos journées sont vraiment, sont vraiment très diversifiées.
Effectivement.
Quand c'est diversifié comme ça, ça veut dire que ta publicité toi-même comme client, parce que toi, tu es ton propre client. Hein? Veux, veux pas, tu t'occupes de tes coms, de ta pub, de ton image. Tu fais quoi quand t'es... Parce que moi, je me fais souvent dire par des experts dans ton domaine qu'à un moment donné, il faut focusser là, sur notre clientèle. T'sais, c'est qui qu'on veut? Là? On les veut toutes. Ah, ben, comment ça marche?
Ouais. Bon. Ça, effectivement, c'est une grosse question. Moi, j'ai fait un choix il y a 7 ans, puis je maintiens mon choix aujourd'hui encore, c'est de ne pas me spécialiser, mais j'ai des segments de marché. Puis tu sais, je veux dire, si tu regardes mon pourcentage de clientèle, mon plus gros segment de marché, c'est vraiment les OBNL. Donc, on est dans du 40-45%. Après ça, j'ai un 30% corpo. Donc, comme disait Maëlys, des clients vraiment plus haute technologie, etc. Donc, on a vraiment un 30% très corporatif. Puis le troisième segment, dans le fond, le 30% restant, on est vraiment dans du lifestyle. Puis je prends le lifestyle, j'y vais vraiment au sens large. Donc, comme disait Maëlys, mode des beautés, agroalimentaire, vin spiritueux, boissons alcoolisées, mon Dieu...
Distillerie.
Distillerie, on en a eu beaucoup. Si on travaille... Après ça, on a aussi des mix. Mettons le groupe Geloso, le groupe Gelo.
Siri a parti distillerie.
Oui, c'est ça. Mettons, on travaille avec le groupe Geloso depuis plusieurs années. C'est le groupe Geloso.
Ah, excuse-moi, là, t'es un peu, là, ça n'a pas de bon sens. Vive le direct, hein?
Oui, c'est ça.
Faut plus dire ce mot-là, là.
C'est ça. Hein, c'est ça, on travaille avec le groupe Geloso depuis plusieurs années, qui est un mix de corporatif et de lifestyle aussi, parce qu'on fait autant des campagnes de RP pour leurs boissons alcoolisées que des campagnes plus orientées vraiment sur le côté business de l'entreprise. Donc, voilà.
Et juste pour rebondir sur ce qu'Éric disait, je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir avoir cette diversité-là parce que ça nous permet de développer vraiment des compétences sur différents secteurs, puis ensuite de pouvoir encore plus accompagner nos clients et avoir une expérience très diversifiée. Donc, je pense que c'est super important aussi de ne pas rester fermé à découvrir d'autres clients et différents secteurs aussi d'activité.
Puis est-ce que tout le monde a un petit peu ses spécialités ou tout le monde touche à tout dans les dossiers, justement?
Tout le monde touche à tout, oui. Je dirais, en général, vraiment, ouais.
On y va vraiment, tu sais, on sait toujours qu'on essaie de respecter les intérêts. On essaye. Est-ce que c'est toujours possible? Non, malheureusement. Puis on essaye aussi de respecter... ça, par contre, on essaie vraiment de le respecter le plus possible. Des fois, malheureusement, ça n'a pas été possible, mais on essaie vraiment de respecter. Mais je vous donne un exemple. On a beaucoup de personnes végétariennes et véganes à l'agence. C'est sûr que si je signe un contrat avec... là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un de nos clients, mais en même temps que je signe avec Olimiel, ouais. Je ne vais peut-être pas mettre quelqu'un de végan.
Ce sont pas les meilleures collaborations.
Saint-Hubert ont des très bonnes options véganes.
Oui, non, c'est... Non, non, mais je pensais poulet, là, tu sais, genre poulet frit Kentucky, là.
Fait qu'on essaye aussi de respecter les valeurs individuelles, mais tu sais, c'est ça. C'est pas nécessairement toujours possible, mais on fait vraiment notre gros possible à ce niveau-là.
Mais qu'est-ce qui fait qu'un client choisit de travailler avec vous? Tu sais, entendez-vous souvent quelqu'un qui a signé avec vous dire « Ah, moi, c'est à cause de ça, tu sais, que j'ai décidé de venir ici » ou tu sais, avez-vous un petit étincelle à vous particulière?
Je pense que oui. Je pense vraiment que nous, ce qui nous distingue beaucoup, puisque les clients aiment énormément, c'est la proximité qu'on entretient avec nos clients. Pour nous, je pense que le service à la clientèle, c'est la base sur laquelle on assoit nos services, puis l'agence en tant que telle aussi. Tu sais, je peux pas te dire... Mais tu sais, mettons, pour les clients au BNL, on a quand même une structure de prix différente. Donc, on offre une structure de prix plus basse pour les organismes à but non lucratif.
Ouais, c'était ma... Je levais cette question-là.
Parce que souvent, on le sait qu'ils ont parce que c'est pas les mêmes, ils n'ont pas nécessairement les mêmes moyens parce qu'ils fonctionnent sur les subventions du gouvernement. Fait que si le gouvernement décide de moins donner de subventions une année, ils ont moins d'argent. Donc, on essaye d'offrir une structure de prix plus basse pour les OBNL. Donc, tous les OBNL ont droit à la même structure de prix plus basse un peu.
Mais ça, excuse-moi, c'est ouais. Un choix que tu fais toi avec ton cœur de charger ou tu sais, il y a une compensation ailleurs ou.
C'est vraiment, ben dans le fond, là, je peux vous le dire, là, je veux juste pas avoir l'air d'une infopub, mais tu sais, nous, dans le fond, on enlève 10% sur l'ensemble de nos services. Fait que toutes les offres de services au BNL, dans le fond, on cote un 10% sur le prix
c'est
final.
C'est correct.
Ben oui.
C'est ta façon de contribuer à... Ben oui,
c'est ça. Absolument. Est-ce que c'est énorme? Non, parce que j'ai quand même des gens à payer. Là. Je pense qu'il y a cette réalité-là qu'il faut prendre en considération, mais je pense que c'est quand même très apprécié. Puis, tu sais, pour nos clients, de façon plus générale, tu sais, est-ce qu'on est les moins chers? Non. Est-ce que j'ai déjà entendu un client se plaindre qu'on n'était pas... Non, parce que, oui, tu sais, on n'est pas les moins chers, mais j'ai souvent entendu des clients dire... Votre offre de service a été, admettons, plus élevée, vraiment plus élevée que l'autre agence à côté, mais maudit que je suis content de vous avoir pris.
Ah, tu vois.
Parce que si la qualité des services est là, si les résultats sont là, au final, tu sais, moi, je pense que ça vaut l'investissement, tu sais.
Ben, je pense que c'est ça le problème, c'est quand tu payes puis t'as pas de résultats, t'as pas de service, c'est là que les gens sont pas contents.
En même temps, c'est sûr que ce qu'on fait, c'est difficile parce que notre domaine, ça, c'est la grosse difficulté, je pense, c'est qu'on peut pas offrir de garantie. Mais mon Dieu qu'on se donne pour pas avoir à se retrouver dans des situations où c'est ça.
Puis tu sais, à quelque part, vous pouvez pas donner de garantie, mais c'est qu'en même temps, vous faites équipe. Exemple, moi, je vous engage. Ouais. Tu sais, j'ai une part voyons, j'ai une part si ça fonctionne pas, là. C'est pas juste vous, là. Tu sais, moi aussi,
je suis là-dedans.
Des responsabilités. C'est ça, excusez.
C'est juste que le problème, je pense que c'est devenu un problème beaucoup, beaucoup dans la dernière année avec l'inflation qui est monstrueusement élevé. Les clients sont beaucoup en mode, ben, chaque dollar dépensé doit me rapporter 1,5, 2,5 fois le dollar dépensé parce qu'ils sont comme, ils sont vraiment proches de leurs sous. Puis je peux les comprendre. Je veux dire, je suis entrepreneur aussi, puis j'ai des choses à payer, puis c'est vrai que c'est plus difficile en ce moment.
Mais est-ce que c'est un standard ou tu dis des chiffres comme ça?
J'ai des chiffres comme okay.
Ça aurait pu être très vrai. Là. Si je mets, mettons, 100 000 en publicité, est-ce que ça me rapporte 150 ou 200 ou
300? Ouais, non, ça, j'ai vraiment
c'est
lancé des chiffres dans l'univers.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, ce qui est dur, en fait, en ce moment, c'est ça. C'est que, tu sais, tu essaies d'expliquer aux clients, ben comme on comprend, vous investissez et tout, tu sais, on va donner tout ce qu'on a, sauf qu'en même temps aussi, faut que le client comprenne qu'il y a sa part de responsabilité aussi dans le mandat. Je veux dire, tu sais, nous autres, des fois, on va dire, OK, on commence le mandat, etc. Là, on aurait besoin de telle affaire pour telle date. Si ça dépasse telle date, on ne pourra pas nécessairement livrer à temps. Fait que ça risque d'avoir des impacts sur le mandat. Puis finalement, on reçoit le truc en question 2 semaines après la date qu'on avait nommée. Bien là... T'auras beau gueuler autant que tu veux, t'auras beau chialer autant que tu veux, je te l'ai dit, c'était quoi la réalité. J'ai été super clair avec toi, j'ai été super transparent. Fait que, tu sais, à un moment donné, there's so much I can do.
Non, c'est clair. Est-ce que, Eric puis Maëlys aussi, est-ce que vous travaillez beaucoup avec la clientèle qui vous réfère de la clientèle? Parce que là, sur ton site Internet, là, puis je vois les réalisations.
Faut faire attention, mon site Internet est vraiment pas à jour.
Non, tes cordonniers mal chaussés.
Sur le site web, oui.
Quand je dis communication, je sais que vous ne fabriquez pas nécessairement des sites web, mais ça reste, ça fait partie de la communication. D'avoir,
en définitive. Hein?
Mais en tout cas, moi, je le trouve beau, ton site, Eric, OK?
T'es bien fin.
Puis dis-moi, dans la section des réalisations, c'est impressionnant de voir. C'est ça, c'est le fun. C'est comme exemple chez toi, ben, on va dire la coiffure. Ben, c'est le fun d'avoir des gens qui vont parler. Après ça, dire, hey, moi, je me fais couper les cheveux là, puis je vais. Ils prennent soin de moi, puis tu sais, de parler de l'expérience client. Mais là, tu as une motadie de belle brochette de réalisation.
Ça se parle beaucoup.
Ben oui.
C'est un milieu qui est quand même assez. C'est un petit milieu, donc ça se parle beaucoup, définitivement. Surtout les OBNL. Les OBNL, c'est encore plus petit. Tu sais, c'est comme dans un petit milieu, c'est encore plus niche.
Ouais.
Fait que les OBNL, le référencement, là, ça roule.
Les autres, t'es tapé à ils disent, hey, lui, là, c'est un... D'abord, premièrement, je dis lui. C'est lui, puis elle, puis toute l'équipe. Mais en tout cas,
ben oui.
Quand je dis lui, on va dire que c'est. On parle de Toc, OK? On va dire que c'est un gars. mais Toc, là, lui, là, il s'arrange pour que le client, justement, en parle, puis il dise à l'autre, hey, tu fais affaire avec qui, toi, là? Puis appelle donc eux autres. T'sais, c'est même un peu beaucoup plus facile pour vous d'aller chercher de la clientèle comme ça. Moi, je prends l'exemple ici, puis même toi, tu le vis. C'est juste des références quasiment là, dans le jungle des affaires.
Oui.
Les gens qui viennent me dire hey, t'as pas été là, mais voyons, c'est le fun au bout. T'sais, fait, c'est un peu ça.
C'est, oui, le référencement, c'est super important. C'est sûr que pour être référé, il faut que tu fasses la bonne job.
Sois bon, sois gentil.
C'est ça. Mais tu sais, je pense que Maëlys, elle le vit beaucoup. C'est aussi d'offrir une écoute au client, puis un service à la clientèle. Puis tu sais, je ne veux pas parler pour elle, puis tu sais, Maï, je te laisserai aller là-dessus, mais tu sais, je pense que quand tu as une bonne relation avec le client, c'est tellement plus facile, le mandat de façon générale, puis le travail au quotidien.
Puis c'est là qu'il va être référé.
Ouais. Voilà.
Yeah, totalement. Parce que je pense que de toute façon, peu importe les résultats qu'on a dans la campagne, s'il y a eu justement, si on a démontré déjà qu'on était super impliqué, puis qu'on a démontré aussi que, tu sais, on était à l'écoute du client, qu'on était là pour l'accompagner, l'expérience, elle est totalement différente. Donc, forcément, le client, après, il a une bonne image, puis ça lui donne envie de collaborer à nouveau ou de nous référer. Donc, c'est sûr que c'est hyper important pour notre service à la cliente.
4 services, en gros. On parle de médias sociaux, relations de presse, marketing d'influence, puis la consultation. Parce que je présume qu'après les services, si je vous engage pour un mandat, il va y avoir après ça peut-être un service de consultation qui est nécessaire ou en tout cas disponible, du moins. C'est ça?
Oui, nos services, c'est sûr qu'on est en train un peu de... Parce qu'on trouvait que, mettons, 4-5 services, en même temps, ça devient beaucoup, tu sais.
Ben, c'est quand même pas super, 4, non?
Non, mais tu sais, c'est juste qu'on réalise avec le temps, au fur et à mesure, tu sais, qu'en fait, il y a des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Fait que, tu sais, mettons, maintenant, on est en train d'évoluer vers des chapeaux plus larges, on va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, relations publiques, relations de presse, marketing d'influence, achats médias, fait que ça rentre, mettons, dans ce chapeau-là.
Podcast?
Hein? Oui.
Hey, oui. Arrêtez de nous oublier, tabarouette. Vous êtes en train de nous oublier. On est payés, nous autres, avec, là.
C'est vrai.
Je t'agace.
Après ça, les médias sociaux, fait que gestion de communauté, publicité sur les réseaux sociaux, création de contenu. On a aussi un service qui est quand même non négligeable, qu'on en fait vraiment de plus en plus depuis les 2 dernières années, c'est le design. Fait que, tu sais, on fait refonte d'image de marque. T'sais, on a refait tout le logo puis toute la charte graphique du Centre de prévention du suicide de Montréal. Donc ça, c'est un de nos projets les plus récents. Fait qu'on a tout refait ça. Puis la consultation, ben, tu sais, il y a des gens qui vont... Tu sais, comme par exemple, on a un client qui vient nous embaucher justement pour faire un audit de ses communications en interne. Donc ça, le service de consultation, c'est beaucoup utilisé pour ça. Donc faire un audit de comment ça se passe, les communications, est-ce qu'il y a des choses à travailler, des choses à améliorer.
Un genre de ménage, là. Ben, pas un ménage, mais un...
Des suggestions.
Un diagnostic.
Voilà, hein? Exactement.
On s'entend qu'il n'y a pas 5 personnes dans son équipe, lui, là.
Non.
non,
effectivement. C'est des grosses compagnies, mettons, qui viennent établir des trucs.
Oh, oui, c'est pas dans la jungle des affaires, là, avec ses 4 collègues.
C'est quand même plusieurs personnes, puis ça demande un travail quand même assez poussé, parce que, tu sais, puis les diagnostics, c'est pas toujours facile, parce que je veux pas, tu sais, faut que tu dises au client qu'est-ce qui marche pas. Puis il faut que tu évalues.
C'est pas tout le temps facile, ça.
Non, parce qu'il faut que tu évalues si le client est prêt à l'entendre.
Et lui, c'est son bébé, là.
Moi, là, on peut-tu dire quelque chose au client? Ah, que oui, ce soit dans n'importe quelle compagnie.
C'est pas vrai, ça, que le client a toujours raison?
C'est pas ça la question. Moi, là, si je décide de faire affaire avec vous autres, toc. Là,
t'es chanceux en tabarouette.
Oui, je sais que je suis très. Je crois que je vais être en de très bonnes mains. Oui. Sauf que quand tu décides de donner une sphère de tes affaires à quelque. Que ce soit justement à vous autres, le marketing, que ce soit. Bien, quand tu choisis quelqu'un, tu devrais y faire confiance, puis tu sais que c'est sa spécialité. Mmh. Fait qu'après ça, quand toi, t'ostines pas, là, tu fais confiance, tu te dis, OK, on s'en va là, ça va être ça, j'ai besoin de tout ça, telle date, je veux... T'en veux des résultats, tu les as choisis, c'est pas plus compliqué que ça. Embarque à 100%. Après, avant de dire que ça marche pas ou que c'est pas bon...
Mais tu sais, t'as souvent le client, Germaine, là. Tu sais, le client, là... Ben, c'est un peu...
Des types de clients, il y en a de toutes sortes.
Mais tu sais, c'est un peu, Éric, puis Maëlys, votre domaine, tu sais, je compare, mettons, j'ai des amis qui se sont mariés, ils ont engagé une marieuse. Mais ils ont tout fait. La marieuse, là, était à bout. Tu comprends-tu, là? Là, à un moment donné, en plein milieu, elle a demandé, elle a dit, pourquoi tu m'as engagé? C'est exactement ce que Marie-Ève explique. Dans le fond, si on vous engage, parce que c'est vous les experts, puis go, let's go, tabarouette, puis dis-moi, là, tourner à droite ou tourner à gauche, mais dis-moi où tourner, tabarouette. Bien, je veux pas tout faire. J'ai une question, moi, avant. Je vois le temps se sauver. C'est notre seul ennemi, c'est le temps. Hein? Tu le savais, Eric?
C'est intéressant.
Ouais, ben oui.
J'en aura encore plein de questions.
Ben oui, on resterait avec vous autres la soirée, tabarnouche. Le marketing d'influence, quand les gens entendent ça, moi, je veux que tu clarifies, là. Tu sais, je connais une partie de la réponse, hein, mais je veux pas avoir l'air petit Joe connaissant, là. Marketing, web, tu sais, il y a souvent le mot marketing qui arrive, puis après ça, il y a un autre nom. Explique-nous, là. Fais-nous un ménage là-dedans, là, Maïlis ou Ben Eric, là.
Ben, Maïlis, c'est vraiment l'experte en marketing d'influence, fait que j'ai le goût de la laisser répondre marketing d'influence.
Alors, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver?
Dans le fond, le marketing d'influence, il y a deux aspects. Nous, on fait le marketing d'influence qui est rémunéré, donc avec les influenceurs. Donc, ça va partir d'aller en fait faire des collaborations avec les influenceurs pour qu'ils puissent présenter soit les services ou les produits d'une entreprise. Donc ça, ça va passer par justement mettre en place une campagne avec l'influenceur, dresser avec l'entreprise un brief de marketing d'influence, donc avec des messages clés, pour pouvoir justement s'assurer que l'influenceur va mettre de l'avant les éléments qu'on veut le plus passer au public. Puis ça va être vraiment une collaboration, donc comme je disais, qui va être rémunérée donc à l'influenceur en fonction justement de différents critères. Donc nous à l'agence, justement, on a des logiciels qui nous permettent de voir, dépendamment des influenceurs, quelle est la valeur média en fait des publications qu'ils ont à faire, combien on devrait les rémunérer en fonction de leur communauté, de l'engagement qu'ils ont. Donc c'est vraiment une collaboration, tu sais, avec les influenceurs, mais de façon officielle, je dirais. Puis on a le marketing d'influence organique, qui là rentre plus dans le domaine des relations publiques. Donc à ce moment, nous, ça va être vraiment de partager en fait avec les influenceurs, soit des produits encore une fois ou un service, et à ce moment-là de leur laisser vraiment le libre arbitre en fait d'en parler auprès de leur communauté. Mais ça va vraiment se faire de façon organique. Et ce que ça va permettre en fait, c'est vraiment d'aller chercher le public, mais sans qu'ils aient cet aspect en fait de publicité, là où on sait que l'influenceur a été rémunéré. Là, c'est vraiment spontanément que l'influenceur va décider de parler de la chose et donc d'exposer son public à un produit ou un service.
Comme un animateur de podcast, mettons.
C'est ça.
C'est exactement. Ça.
Non, mais je pense, moi, là, je sais pas, là, je suis comme en train de réfléchir.
Je pense que ce qui est difficile dans tout ce qui est marketing influence ou même beaucoup de domaines de des communications de façon générale, ce qui est un peu difficile, c'est que, tu sais, on n'est pas comme, admettons, un pharmacien. Tu sais, un pharmacien, tu as un ordre professionnel, puis ça marche comme ça, puis c'est genre la profession est gérée comme ça, tu sais. À la limite, n'importe qui peut s'ouvrir une agence de communication, puis il peut décider d'offrir des services d'une façon X, puis ça, ça fait mal à notre industrie des fois, tu sais.
Je te comprends.
Ben, il y a les coiffeuses, les coiffeurs.
T'sais, on n'est pas géré, tu comprends, t'sais, toi aussi, ton domaine, c'est la même chose. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... Mm. En tout cas, c'est vraiment difficile. Puis après ça, ben, tu sais, ça arrive des fois, là, des clients qui vont quelque part, ça se passe super mal, ils ont une super mauvaise expérience. Puis, tu sais, quand tu les approches après pour travailler avec eux, ils sont comme, j'ai déjà eu une très mauvaise expérience, il n'est pas question que je leur fasse affaire.
Ça m'a coûté X dollars, puis ça m'a rien donné, puis là, bon, ils partent là, dans l'histoire.
Ça, c'est très triste. Moi, ce que j'ai le goût de dire à ces clients-là qui ont vécu des mauvaises expériences, c'est que laissez une deuxième chance.
Ben oui.
Puis magasiner aussi, tu sais.
Ben, tu sais, si on se fait couper les cheveux...
Arrêtez-vous pas au prix.
Ben, c'est ça, j'allais dire, parce qu'il n'avait sûrement pas payé le gros prix avec la première place qu'il avait décidé de faire.
C'est comme si, mettons, je te dis, c'est quoi la différence entre une coupe à 15$ puis une coupe à genre 65$? On s'entend.
Je pense que tu n'as même pas le goût de l'essayer pour comprendre.
C'est ça. Je veux dire, si tu me rases la tête, c'est pas très compliqué. Ça. Je peux comprendre, ouais, ça coûte 15$. Je veux dire, tu mets un et demi, puis en vrai, c'est fini. Là, mais, tu sais, je veux dire. Fait que. Mais souvent, c'est ça le problème. T'sais, c'est les clients, tu leur fais une offre de service, tu passes du temps là, à faire ton offre de service, à rédiger, puis à...
Ben oui.
Tout, ils la reçoivent, puis ils passent tout de suite au tableau budgétaire, ils réalisent même pas. Tu sais, t'es comme...
Je comprends tellement.
Ouais. Faudrait que tu mettes les chiffres en partant. Fait que là, ils passent vite ces chiffres, puis après ça, ils comprennent l'intérêt.
Oui, mais c'est pas mieux parce qu'en fait, ils vont juste regarder les chiffres, là, ils vont voir, ah non, c'est 1000$ au-dessus de mon budget, fait que...
Ouais. Ben, tu sais, les gens, là, peut-être même mentionner à nos auditeurs, là, tu sais, oui, 1000$, c'est beaucoup, là, mais en publicité, c'est rien. Tu sais, c'est comme si tu disais à quelqu'un en construction, j'ai un projet de 10 000. Ouais, c'est quoi, c'est un cabanon? Tu sais, je veux dire... Non, mais il faut être réaliste, là, je veux dire... En tout cas, moi, j'adore ça. Puis j'aime le jargon communication. J'étais entouré ici de Bronco Marketing. Les boys, ça fait du marketing. Puis bon, marketing, marketing. Mais à un moment donné, c'est large, marketing. Donc là, moi, je le dis tout le temps. C'est quoi? C'est un site web, mais un logo, un trademark, marque employeur? Tu sais,
pourquoi? Le marketing, à son sens large, c'est vraiment un regroupement d'actions.
Il y a 10 branches, là. Il y a au moins 10 branches dans le marketing.
Oui, oui, il y en a vraiment beaucoup, là.
La communication, ce qui est le fun aussi, c'est que, bon, on va parler de médias sociaux, communiquer, mais est-ce que vous, des fois, on va parler de communication, ça a-tu rapport avec la communication entre fournisseurs, entrepreneurs? Ça a-tu rapport, ce que je dis? Mettons que ton client, à toi, il t'approche.
Ouais.
Parce que lui, il veut justement élargir ses fournisseurs ou pas juste sa clientèle. Tu sais, il veut peut-être communiquer avec...
Ben...
Pour qu'on le connaisse ou je sais pas.
Ça peut se faire.
Ça reste que c'est de la pub.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est ça. Mais tu sais, nous, c'est important de tu sais, nous, on fait pas de la pub. C'est important. Mais on en fait en médias sociaux, mais en RP, c'est pas de la pub.
Ouais.
C'est vraiment important de faire une dissociation entre les deux. La publicité, c'est vraiment un milieu qui est propre.
À eux.
Ouais. C'est, mettons, mais...
c'est un autre game.
Ouais.
Ouais. Mais par contre, en relation publique, c'est possible de travailler justement avec des clients, comme vous disiez, pour tout ce qui est fournisseur, travailler en fait la crédibilité de son entreprise avec une campagne, par exemple, corporative. Là, on va aller peut-être aller chercher des grands médias pour se positionner. Avoir certains articles dans certains médias aussi, ça va permettre justement aux fournisseurs d'asseoir la crédibilité de l'entreprise et de se dire que justement cette entreprise, on parle d'elle, c'est il y a bon des point. Nouveautés qui continuent à sortir, donc ça peut être un moyen avec les relations de presse justement d'asseoir sa crédibilité auprès de ses fournisseurs.
Parce que tu sais, on dit en entreprise, on veut avoir des clients.
Oui.
Mais je vous donne un exemple. Présentement, je vis avec le podcast Enjeux des affaires, un besoin de commandite.
Ouais.
Alors oui, on a besoin de clients parce que c'est les clients qui amènent justement l'auditoire puis tout ça, puis les revenus à l'interne parce que c'est de la publicité qu'on s'achète. Mais c'est le commanditaire, comment je fais pour communiquer avec lui? Tu sais, c'est un peu ça ma question. C'est d'aller chercher autre chose que de la clientèle.
Mais il y a des agences qui le font. Il y a des agences qui vont le faire de la commandite. Le milieu des commandites, ça fait partie.
C'est niché, hein?
C'est niché. Puis, tu sais, mais tu sais, mettons, dans le bac, si je regarde le bac en relations publiques à l'UQAM, je pense qu'il y a un cours de commandite.
Oui.
Mais nous, en tant qu'agence, nous, on le fait pas. Nous, c'est pas quelque chose qu'on fait. Je pense que pour faire de la commandite, il faut avoir un solide réseau de contacts dans le milieu des affaires de façon générale, connaître des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts à investir. mais nous, c'est pas notre... C'est pas
nécessairement notre... Hey, Eric, talk communication, ça manquait à ma culture.
Ouais.
Maïlys, merci beaucoup. Ouais.
Merci. Hey, je peux-tu avoir une dernière question?
Bien, certain.
Parce que là, moi, j'ai lu que Maïlys, ça faisait de la musique.
Ah, ouais.
Est-ce que vous vous servez des fois de ces talents musicaux dans votre
entreprise? Dans les parties,
je sais pas, des fois pour aider des... Je sais pas, est-ce que tu participes autrement à la compagnie avec tes talents?
Non. On va dire que, mis à part des petites chansons...
Eric, il savait pas. Eric, il savait pas qu'elle jouait de la musique.
Ah, ça y est.
T'aurais pas dû le dire.
Non, je savais. Dans les 5 à 7, les parties de bureau, des choses comme ça. On a toujours droit à une chanson.
Ah,
elle est très, très talentueuse.
C'est
fun. En tout cas, vous avez l'air d'avoir une belle équipe.
Puis, elle a un album, d'ailleurs.
Ah oui?
Oui.
Mais là, il faut écouter ça.
Ah oui?
Sur Spotify?
Ouais. Oui, Spotify, Apple Music.
Ben, envoie-nous ça quand t'écoutes, qu'on parle de toi, on va être contents, nous autres. Hey, puis en plus, là, comme influenceur, on ne charge rien.
Gratuit.
C'est pour ça qu'on est encore pauvres. Si on est tout le temps dans le gratis, nous autres, tabarouette, ça va bien.
C'est le cœur.
Hey, on y va avec le cœur. Oui, nous autres, c'est vrai qu'on a un grand cœur.
Ben, ils doivent comme les gens qui travaillent avec les OBNL.
Les OBNL.
C'est ça, c'est le cœur.
Tu sais que le premier livre dans la jungle des affaires qui est sorti en 2019 est sorti au profit de la fondation ici, Pignon Bleu, qui fait, okay. Qui apporte la nourriture aux enfants du quartier Basseville de Québec. Mm-hmm. Puis que le deuxième, c'était supposé de sortir en mars 2020.
OK.
Ouais, avec la YWCA qui vient en aide aux femmes victimes de soit de violence ou de drogue ou peu importe.
Fait que le projet, il est sur,
Sur la glace. Tablette. Le prochain, il va peut-être être pour T-Bell, on le sait pas.
Ouais.
Hey, je vous invite à aller voir ça. T-Bell, T'SBELLE. T'es belle. Mais t'es beau maintenant, là.
Oui, puis je voyais, Aneb, est-ce que c'est encore dans vos clients? Parce que c'était dans les...
Non, c'est un mandat passé. Ça fait partie de nos clients. C'est un mandat passé. Mais oui, effectivement, on travaille avec Aneb Québec il y a plusieurs années quand même.
OK.
Comme je vous dis, il y a une mise à jour de la clientèle. Tu sais, comme il y a certains clients avec qui on travaille qui ne sont pas là. Certains autres qui...
Ben, au pire, appelle-moi, Eric, je te présenterai une agence de com.
Ben, j'ai déjà une agence qui s'occupe de mon site web, là, Instinct. C'est une agence de Québec, justement, de votre coin. Puis là, on est vraiment sur les derniers mille. Là. D'après moi, d'ici 2-3 semaines, là, ça va être en ligne.
Bon, ben super. Hey, merci beaucoup. Merci, Marie-Ève.
Ben, merci à toi, Réjean.
Merci à vous
deux. Ben oui, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était une belle entrevue. C'est le fun. On s'est débrouillé à la dernière minute. C'est de mon erreur. Fred a fait un job de maître de pouvoir nous installer ça en...
Merci, Fred!
Ouais, merci, Fred, certain. Merci. En 6 secondes et demie, ben, s'il n'y avait pas de Fred, il n'y avait pas de jungle. Hein? Fait que, on sait comment est-ce qu'il est indispensable à l'organisation. C'est le fun. Merci, la gang. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir.
Merci d'avoir écouté La jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.